Conche.
L'hiver fut relativement doux cette année-là. Avant le jour levé, l'ormet le Dolois venait secouer l'oreiller de Robert. Celui-ci poussait quelques grands bâillements de fauve, se mouillait un peu le visage dans le bassin que lui présentait Gilet de Nesle, sautait dans ses vêtements de chasse, tout de cuir, et la fourrure en dedans, les seuls vraiment bien agréables à porter. Puis il allait ouïr messe basse en sa chapelle. L'aumônier avait ordre de dépêcher l'office. Évangile et communion en quelques minutes. Robert tapait du pied si le frère s'attardait un peu trop à prier, et le ciboire n'était pas rangé qu'il avait déjà passé la porte. Il avalait un bol de bouillon chaud, deux ailes de chapon ou bien un morceau de porc gras, avec un bon hanap de vin blanc de Meursault qui vous dégourdit l'homme, coule comme de l'or dans la gorge et réveille les humeurs endormies par la nuit. Tout cela debout. Ah, si la Bourgogne n'avait produit que ses vins, au lieu d'avoir aussi ses ducs. « Manger matin donne grand santé », disait Robert, qui croquait encore en gagnant son cheval. Le coutel au côté, la corne en sautoir, et son bonnet de loup enfoncé sur les oreilles, il était en selle. La meute de chiens courants tenus sous le fouet aboyait à pleine gueule. Les chevaux piaffaient, la croupe piquée par le petit froid matinal. La bannière claquait sur le haut du donjon, puisque le seigneur séjournait au château. Le pont-levis s'abaissait, et chiens, chevaux, valets, veneurs à grand vacarme déboulaient vers la mare, au cœur du bourg, et gagnaient la campagne à la suite du gigantesque baron. Il traîne les matins d'hiver sur les prés du pays d'Ouche une petite brume blanche qui a une odeur d'écorce et de fumée. Robert d'Artois aimait Conche, décidément. Ce n'était qu'un petit château, certes, mais bien plaisant, avec de bonnes forêts alentour. Un pâle soleil dissipait la brume juste comme on arrivait au rendez-vous, où les valets de Limier présentaient leur rapport. Ils avaient relevé traces et volselaient. On attaquait à la meilleure brisée. Les bois de Conche regorgeaient de cerfs et de sangliers. Les chiens étaient bien créancés. Si l'on empêchait le sanglier de s'arrêter pour pisser, il était pris en guerre plus d'une heure. Les grands cerfs majestueux emmenaient leur monde un peu plus longtemps. Par de longs débouchés où la terre volait en gerbe sous les pieds des chevaux, et ils allaient se faire aboyer, raides, haletants, la langue sortie sous leur lourde ramure dans quelque étang ou marais. Le comte Robert chassait au moins 4 fois la semaine. Cela ne ressemblait pas aux grands laissés-cours royaux où 200 seigneurs se pressaient, où l'on ne voyait rien, et où, par crainte de perdre la compagnie, on chassait le roi plutôt que le gibier. Ici, vraiment, Robert s'amusait entre ses piqueurs, quelques vassaux du voisinage, fort fiers d'être invités, et ses 2 fils, qu'il commençait de former à l'art de vénerie, que tout bon chevalier se doit de connaître. Il était content de ses fils, 10 et 9 ans, qui grandissaient en force. Ils surveillaient leur travail aux armes et à la quintaine. Ils avaient de la chance, ces gamins. Robert avait été trop tôt privé de son père. Il servait lui-même l'animal à la lie, prenant son coutelas pour le cerf ou un épieu pour le sanglier. Il y montrait une grande dextérité et éprouvait plaisir à sentir le fer appuyé au juste endroit, s'enfoncer d'un coup dans la chair tendre. Le gibier et le veneur étaient également fumants de sueur, mais l'animal s'écroulait, foudroyé, et l'homme restait debout. Sur le chemin du retour, tandis qu'on commentait les incidents de la poursuite, les vilains des hameaux, en guenilles et les jambes entourées de toiles déchirées, surgissaient de leur masure pour courir baiser l'éperon du seigneur, d'un mouvement à la fois extasié et craintif, une bonne habitude qui se perdait en ville. Au château, dès le maître apparu, on cornait l'eau pour la dîner de midi. Dans la grande salle tendue de tapisseries aux armes de France, d'Artois, de Valois et de Constantinople, car Madame de Beaumont était courtenay par sa mère, Robert s'attablait pour engloutir pendant 3 heures de rang tout en taquinant son entourage. Il faisait comparaître son maître queue, la cuillère de bois pendue à la ceinture, et parfois le complimentait si le cuisseau de lait bien mariné était fondant à point, ou lui promettait la potence si la sauce au poivre chaud dont on arrosait le cerf entier rôti à la broche manquait de relever. Il prenait le temps d'une courte sieste, après quoi il revenait par la grand salle pour entendre ses prévôts et receveurs se faire donner les comptes, régler les affaires de son fief et rendre la justice. Il aimait beaucoup rendre la justice, voir l'envie ou la haine dans les yeux des plaideurs, la fourberie, l'astuce, la malice, le mensonge, se voir lui-même en somme à la petite échelle des gens du fretin. Il se réjouissait surtout des histoires de femmes ribaudes et de maris trompés. « Faites paraître le cornard !» ordonnait-il, carré dans son faudesteuil de chêne. Et de poser les questions les plus paillardes, tandis que les clercs greffiers pouffaient derrière leurs plumes et que les requérants devenaient cramoisis de honte. Robert avait une fâcheuse propension que ses prévôts lui reprochaient à n'infliger que des peines légères aux voleurs, larrons, pipeurs de dés, suborneurs, détrousseurs, macros et brutaux, sauf bien sûr si le larcin ou le délit avait été commis à son détriment. Une secrète connivence le liait de cœur avec tout ce qu'il y avait de truanderie sur la terre. Justice rendue et voilà la journée presque passée. Robert descendait aux étuves, installé dans une chambre basse du donjon, se plongeait dans une cuve d'eau chaude parfumée d'herbes et d'aromates qui défatigue les membres, se faisait sécher et bouchonner comme un cheval, peigné, rasé, frisé.